RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublanche. Nous avons du mal à survivre. Le cri d'un patron pêcheur en Sierra Leone.
24 heures du grand sommet en France sur les océans. Montée des eaux, exploitation des sous-sols sous-marins, des abysses, raréfaction du poisson, la colère gronde. Chez celles et ceux qui viennent, qui vivent aussi à côté de la Grande Bleue, alors que les États-Unis notamment comptent bien exploiter tout ce qu'ils peuvent dans les océans. La réaction dans ce journal au Mali après la libération d'Alassane Abba jeudi, on écoute le président du parti CODEM dans 2 minutes. On va tenter aussi d'analyser la stratégie du PDCIRD en Côte d'Ivoire maintenant que son président est inéligible pour la présidentielle d'octobre. Le parti se réunissait hier. Il n'y a pas de plan B, nous dit-on. Alors, est-ce qu'il y aura un boycott de la présidentielle ou finalement une candidature alternative, quand même au risque d'un faible score? Analyse donc à suivre. On vous parle de cette information en Afrique de l'Ouest également. Au Libéria, pardon, l'ancien président de la Chambre des représentants est en détention provisoire et on va vous expliquer pourquoi. On vous raconte aussi, bien sûr, l'une des grandes informations de ce dimanche, c'est le Rwanda qui claque la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le pays devait prendre la présidence de l'organisation, mais finalement, ce n'a pas été le cas à cause de pression de la RDC. Amélie Tulé vient nous expliquer.
C'est donc demain que s'ouvre la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, dans le sud de la France.
Et les événements se multiplient ces derniers jours dans la région autour de ce thème des océans. L'idée de la France est de faire de ce rendez-vous un rendez-vous majeur à l'image de ce qu'avait été par exemple la COP climat à Paris en 2015. Sauf que les États-Unis boycottent. Pourtant, le sujet est bien sûr crucial. Exemple ce matin en Afrique de l'Ouest où les communautés de pêcheurs qui sont sur les côtes tirent la sonnette d'alarme sur l'état d'épuisement des océans, notamment épuisement du stock de poissons. Écoutez le témoignage de Tchernor Ba, le capitaine du port de Tombo, c'est en Sierra Leone.
Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui, mais surtout, il n'y a plus de poissons et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10 ou 11 heures qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson. Il y a beaucoup plus de bateaux qu'avant et certains utilisent des techniques de pêche destructrices pour l'environnement qui empêchent les poissons de se reproduire. Ici, la pêche est la seule option. On n'a pas d'usine, on n'a pas d'autres secteurs d'activité. La seule chose que les gens savent faire, c'est pêcher. Donc, les jeunes qui sont nés ici se lancent automatiquement dans la pêche. Aujourd'hui, les choses se sont modernisées. Pourtant, là où autrefois on dépensait peut-être 20 litres, 30 litres d'essence pour aller attraper du poisson, c'était possible de faire des affaires. Mais aujourd'hui, il faut peut-être dépenser 100 litres, 150 litres de carburant pour arriver au même résultat.
Un propos recueilli par Lisa Fabian. Édition spéciale autour de ce thème, ce sommet sur les océans. Demain, 8h10, 9h, heure de Paris, 6h10, 7h, temps universel, autour d'Anne Cantner et de ses invités.
RFI, 6h33, à Bamako. L'armée malienne se retire d'un important camp militaire du centre du Mali, le camp de la localité de Boulkessi.
Hier, plus aucun soldat n'était sur les lieux. Le camp a subi cette semaine 2 attaques djihadistes meurtrières dont on a parlé sur RFI. Au Mali, toujours cette première réaction après la libération d'Alassane Abba dont on vous parlait hier. Le secrétaire général du parti d'opposition Convergence pour la démocratie, CODEM, a été libéré jeudi. Il avait été arrêté le 8 mai à son domicile. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire. Ousseini Amion Guindo est président du parti CODEM. Il indique qu'Alassane Abba va bien et qu'il reste engagé pour la démocratie au Mali.
Cette libération, surtout à la veille de Atabaski, est un immense soulagement pour d'abord sa famille et aussi ses camarades politiques. Alassane Abba a regagné sa famille jeudi dans les environs de 19h. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une bonne apparence et il n'a pas été torturé. Bien entendu, après 4 semaines dans des conditions pareilles, forcément, psychologiquement, il accuse un coup, mais cette égratignure n'empêchera en rien Alassane Abba de continuer son engagement pour la justice, pour le droit et pour la démocratie dans notre pays. S'il y a aujourd'hui quelque chose qui inquiète l'ensemble des Maliens, c'est la montée en puissance des terroristes. L'ordre du jour n'est pas au règlement de compte politique. L'ordre du jour est à comment faire face à cette menace qui déjà est à nos portes.
Ousseini Amion Guindo, président du parti CODEM, joint par Guillaume Thibault. En Côte d'Ivoire, à moins de 5 mois de la présidentielle, l'opposant Tidiane Thiam désormais inéligible depuis sa radiation de la liste électorale mercredi. Son parti, le PDCI, pourtant soutient ouvertement toujours sa candidature à la présidentielle, mais alors que l'élection se rapproche, les incertitudes entourent, Benoît Almeiras, la stratégie de la formation politique.
Tout le monde peut être candidat, mais pour gagner, c'est Tidiane Thiam. Voilà comment le député Soumaïla Bredoumi écarte tout débat autour d'un plan B en vue de la présidentielle. Problème, le chef du PDCI ne peut pas s'aligner. Le parti d'opposition risque donc de manquer sa troisième élection consécutive. À cela s'ajoute le flou autour du retour de Tidiane Thiam. L'opposant n'est plus en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 mois. Dans ce cadre, les analystes joints par RFI esquissent plusieurs scénarios. Parmi eux, le report des ambitions de Tidiane Thiam à 2030. Il aurait alors 68 ans, l'âge auquel Alassane Ouattara a accédé à la présidence. Cette temporisation permettrait au PDCI de préparer les législatives prévues l'an prochain. Moins probable, l'adoubement d'une candidature alternative à la dernière minute, avec le risque, en termes d'image, d'un faible score lors du scrutin du 25 octobre prochain. Benoît Almeiras, Abidjan, RFI.
Il est 6h36 à Abidjan, la même heure à Monrovia, au Libéria. L'ancien président de la Chambre des représentants est derrière les barreaux, en détention provisoire au siège de la police nationale, Jonathan Fonati Kofa. Nemo Ampis, il est inculpé avec plusieurs autres élus libériens pour l'incendie de décembre dernier au Congrès.
Un des développements profondément préoccupants et qui rappelle un chapitre sombre de l'histoire de notre nation. C'est la réaction de plusieurs opposants, dont l'ancien président George Weah. Il demande la libération sans condition de Jonathan Fonati Kofa ainsi que celle des autres députés mis en cause. Jonathan Fonati Kofa, qui est membre de la formation politique de l'ancien chef d'État libérien, et son maintien au poste de speaker au Congrès a fait l'objet d'un bras de fer de plusieurs mois. Récapitulons, Vincent. En octobre, près d'une cinquantaine d'élus votent sa destitution, l'accusant de corruption et se mettent à siéger de leur côté avec leur propre président de chambre, membre du parti de l'actuel président Joseph Boakai. Les tensions politiques montent. En décembre, la capitale Monrovia est le théâtre de manifestations de soutien à Jonathan Fonati Kofa. Et c'est dans ce contexte qu'un violent incendie endommage le Congrès le 18 décembre. En avril, la Cour suprême donne raison à Jonathan Fonati Kofa, invalide sa destitution, mais celui-ci choisit toutefois de démissionner à la mi-mai. Il est inculpé à présent d'incendie criminel, mise en danger d'autrui et tentative de meurtre. Selon le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui, mais l'opposition, Vincent, parle de manœuvres politiques périlleuses pour la stabilité du pays.
Jonathan Fonati Kofa qui est donc en détention. L'opposition libérienne, vous le disiez, qui dénonce des manœuvres périlleuses. C'est une situation forcément de tension politique au Libéria, mais wait and see, attendons de voir, nous dit ce matin Abdullah Kiatamba, politologue libérien.
Il est trop tôt pour dire si ce procès sera équitable ou non. Laissons le processus se dérouler et voyons où il mène. S'il y a la moindre ingérence, les gens s'alarmeront et feront entendre leur voix. Le gouvernement doit montrer qu'il a des preuves et ces preuves doivent être solides. Nous voulons voir quelles preuves ils ont. Mais si les preuves ne sont pas convaincantes, ce ne serait pas une bonne idée car cela pourrait envoyer un mauvais message. Nous verrons quelles seront les prochaines réactions. L'opposition se réunit toujours. Il est trop tôt pour dire s'il y aura ou non de l'agitation, mais il y a une forte présence policière dans tout le pays, notamment à la prison où Kofa et les autres députés sont incarcérés. La présence policière est importante dans de nombreux quartiers de la ville. La tension est palpable, mais rien de violent n'est encore observé. Il n'y a pas de chaos pour le moment.
Analyse du politologue libérien Abdullah Kiatamba sur Radio France Internationale. Il est quasiment 8h39 ici à Paris, au Ghana. Un avis de recherche internationale à l'encontre d'un ancien ministre des Finances, Kenneth Ofori Atta, figure de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo. Le procureur spécial l'accuse d'avoir retiré des avantages personnels de ses fonctions. Interpol a émis une notice rouge, c'est-à-dire pas un mandat d'arrêt formellement, mais en tout cas une demande pour le localiser et procéder à son arrestation.
Le Rwanda dénonce un échec. Le pays quitte l'organisation sous-régionale de l'Afrique centrale.
La CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui tenait hier son 26e sommet ordinaire au niveau des chefs d'État et de gouvernement, c'était à Malabo, en Guinée équatoriale, pays qui occupait la présidence tournante. et qui va continuer à le faire pendant l'année qui vient, et non pas le Rwanda comme c'était prévu normalement, et tout cela sous fond de tensions avec la République démocratique du Congo et le Burundi, Amélie Tulay.
Le Rwanda proteste ainsi contre la décision prise ce samedi à Malabo. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a en effet choisi de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de l'organisation par la Guinée équatoriale et donc par le président Obiang Nguema. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence tournante au Rwanda, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. En réaction, Kigali déclare, je cite, « déplorer l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres ». Fin de citation. Selon un commissaire cité par l'agence France-Presse, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEAC et pointe, je cite, l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles.
Amélie Tulay, merci. Par ailleurs, lors de ce sommet hier à Malabo, la CEAC a décidé de lancer une zone de libre-échange dans la communauté économique d'Afrique centrale. Ce sera à partir du 30 août prochain.
Et puis de l'amour pour terminer, oui. Pourquoi pas, Vincent, RFI, à la quatrième édition, et c'est rare, à la quatrième édition des rencontres dramaturgiques de Kinshasa.
Oui, on va terminer en République démocratique du Congo. Au programme de ces rencontres, Julien, des lectures de textes en scène, sur scène, tous ont un point commun, donc le plus beau, le plus fort des sentiments, l'amour. Aurélie Bazara Kibangula a assisté aux répétitions au tarmac des auteurs, salle de théâtre en plein cœur de la capitale congolaise. Reportage et love assuré.
Vous êtes tombé comme ces foutus murs et avec vous, vous vous êtes émietté, pulvérisé.
Sur scène, lecture de l'histoire générale des murs, une œuvre du dramaturge congolais Sinzo Nza qui confronte l'existence de deux femmes non seulement séparées par un mur, mais aussi par leurs origines. Anta Sifokabala, comédienne, incarne une femme d'un quartier populaire.
C'est une dame qui n'a pas assez de moyens, qui essaye d'élever son fils dans des conditions qu'elle peut. J'aime bien ce personnage parce que malgré qu'elle vit à côté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, en fait, qui est bourgeoise et qui la regarde de haut, mais elle, elle accepte ce qu'elle est. Elle vit sa vie.
Dans cette œuvre, les dialogues sont vifs et percutants. Pour Noël Kitenge, metteur en scène, la pièce interroge avec force un sujet d'actualité, le vivre ensemble.
Le mur qui constitue un obstacle pour nos vies, un obstacle pour savoir vivre ensemble, mais lorsque le mur se brise même de peu, on se rend compte qu'on sait voir un peu de l'autre côté, qu'il y a aussi de l'humanité, de l'humanisme aussi de l'autre côté.
Les rencontres dramaturgiques de Kinshasa, c'est au total trois lectures d'œuvres majeures qui interpellent sur notre rapport à l'autre et à l'amour. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Et ces rencontres dramaturgiques se tiennent donc au Tarmac des auteurs, lieu emblématique du théâtre à Kinshasa. Ce sera à partir de demain des lectures qui permettent de mettre en lumière toute la puissance des textes, mais aussi de former des jeunes comédiens. Israël Chipamba est le directeur artistique du Tarmac des auteurs.
Les rencontres dramaturgiques de Kinshasa est une tribune qu'on offre aux artistes autour des écrits. Ce sont des jeunes comédiens qui lisent pour la pièce de Pomra, la pièce de Shakespeare. Alors pour la texte de Sinzo, on a mélangé. Il y a deux jeunes et deux artistes confirmés qui lisent. Parce que l'idée, c'est pas que les jeunes travaillent qu'entre eux, mais qu'ils puissent aussi rencontrer des professionnels qui peuvent leur servir des modèles, des guides. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent frapper à notre porte parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de pratique. Et ils viennent frapper à notre porte pour faire des stages. L'idée, c'est à chaque fois qu'ils entament une vie professionnelle, qu'ils savent comment on aborde une pièce de théâtre, comment est-ce qu'en tant que comédien, j'ai fait pour proposer un personnage. Le Tarmac des auteurs, je pense que c'est devenu plus un lieu où la transmission est essentielle dans notre mission.
Propos recueillis par Aurélie Bazara Kibangula qui signait donc le dossier de ce jour sur Radio France Internationale.
Et merci Vincent Duplanche.
À tout à l'heure.